Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leviosa. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Hersanro, cofondateur de Chaintrust.io, qui est une solution de comptabilité en ligne dédiée aux professionnels. Alors, vous allez voir que le parcours de Pierre est hyper enrichissant, intéressant, parce qu'il a commencé dans le cinéma en tant que producteur de films. C'est un milieu qu'on connaît pas assez bien en France. Vous allez voir qu'il en a tiré plein de leçons et son expérience a été vraiment enrichissante d'un point de vue entrepreneurial. Et il va nous parler un peu de tout ça. Comment est-ce que lui, sa maxime un peu principale, c'est garder les pieds sur terre? Comment est-ce qu'il applique ça au quotidien? Je qualifierais Pierre d'un serial entrepreneur. Il n'hésite pas à se lancer, à tenter l'aventure. Et vraiment, ça, c'est très, très inspirant. En tout cas, bonne écoute et à bientôt. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Super, merci.
Génial.
Bon, alors, j'ai connu Pierre au wagon. Encore une fois, une personne que j'ai connue du wagon. Je vous assure que je ne recevrai pas que des personnes que je connais du wagon ici. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au wagon, vous êtes beaucoup à avoir entrepris et à avoir un peu cette fibre, on va dire, entrepreneuriale. Et chez toi, elle est particulièrement vraie.
Tout à fait, tout à fait.
Donc Pierre, tu as bossé pendant 9 ans dans le cinéma, je crois.
Oui, bah 10 ans en fait, 10 ans.
10 ans en tant qu'entrepreneur. Raconte-nous un peu ce début de parcours, ta carrière. Ça fait combien de temps déjà que tu travailles?
J'ai eu mon bac en 2004 et j'ai commencé à bosser à peu près tout de suite après. J'ai fait du théâtre pendant 2 ans. Je voulais être comédien, j'ai fait un conservatoire. Évidemment, ma prof de théâtre, au bout du parcours, m'a dit « c'est mort, tu ne seras jamais comédien, va faire autre chose ». Et du coup, j'ai fait une école de cinéma et je me suis intéressé au métier de producteur parce que mon père était chef d'entreprise et que je me suis dit « ça pourrait être intéressant d'être moi-même chef d'entreprise », même si je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire à l'époque. Et j'ai rapidement commencé à produire des films dans mon coin d'abord, ensuite bosser dans des sociétés de production à Paris. Ensuite, j'ai fait des études un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne. J'ai fait plusieurs écoles un peu partout. Et je suis rentré à Paris et à ce moment-là, deux amis dans le cinéma sont venus me chercher et m'ont dit « Écoute, il faut qu'on monte une boîte. Allons-y, c'est parti ». Et on a monté une boîte fin 2012, voilà. Ouais. Et donc on a fait du cinéma, on a produit des courts-métrages essentiellement. On pensait un jour réussir à faire du long-métrage, mais on n'a jamais réussi à passer le cap, parce qu'en fait c'est très difficile de faire le grand écart entre les deux, et passer de l'un à l'autre est beaucoup plus dur qu'on l'imagine.
Court-métrage, c'est combien de temps à peu près pour les gens qui ne savent pas?
Ça peut être 5 minutes comme 20, 25, 30 minutes. Ouais. J'en ai fait un peu dans tous les formats, j'ai fait du 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes.
Et c'était des trucs que systématiquement vous créez vous-même
En fait,
la création pure de vous, ou c'était des commandes que vous receviez un peu de certaines choses?
En fait, la manière dont ça se passe en France, c'est que généralement... Alors, ce qui se passe, en principe, c'est un auteur qui a une idée géniale et qui est complètement inspiré par son délire. Il va voir un producteur et il dit « bah voilà mon scénario, voilà le film que je veux faire. Pourquoi je veux le faire? Parce que ça parle de mon expérience, de mon vécu, etc. » Et donc le producteur lit le scénario. Généralement, les premières versions de scénario, c'est des trucs absolument catastrophiques qu'il ne faut surtout pas tourner. Donc, mais parfois, il y a quelque chose qui ressort et on se dit « Ah ben, on va peut-être travailler là-dessus. » Et puis du coup, le premier job de producteur, c'est un métier de psy. On passe X semaines, X mois à discuter du scénario, à écouter le réalisateur parler, à dire « Oui, mais pourquoi tu veux faire ça comme ça? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le parcours de ce personnage ?» etc., etc. Et ensuite, le deuxième métier du producteur, c'est commercial. Il faut aller voir les fonds d'investissement, les financements publics pour les quémander des aides. Il faut savoir qu'en France, donc, la manière dont l'industrie du cinéma est financée, elle est double. La première, c'est à plus de 50%, je pense, des investissements publics. Alors, il faudrait vérifier les chiffres, hein, je suis sûr que ce n'est pas exactement 50%. Et la deuxième partie, c'est des financements privés, sachant qu'il existe des lois en France qui forcent les grands acteurs de l'audiovisuel, donc les Canal+, TF1, etc., à investir une partie de leur chiffre d'affaires tous les ans dans la production originale française, dans des sociétés de production qui ne doivent pas leur appartenir.
Okay.
Et
ouais,
donc,
pour préserver l'exception culturelle française.
Exactement. Alors c'est un peu, ouais, c'est ça. En fait, disons que l'idée de l'exception culturelle française, c'est on veut qu'il y ait des gens partout dans le monde qui regardent des films en français parce que ça contribue au rayonnement de la langue française dans le monde et ça contribue à ce que y ait une industrie internationale qui se développe autour de la langue française.
Ouais.
Et donc c'est important en fait, donc enfin. Aux yeux du législateur et de l'esprit français, on finance largement le cinéma français parce que si on le finançait pas, il s'effondrerait, un peu comme ça s'est passé en Allemagne, en Italie, en Angleterre. D'ailleurs, l'Allemagne et l'Angleterre sont un peu en train de reprendre ce système.
Ouais, et... parce que je trouve, justement, j'allais te dire, il y a beaucoup de productions, je trouve, qui viennent de là-bas en ce moment.
C'est en train de remonter. C'est ça. C'est en train de revenir parce que justement, l'Allemagne a mis en place des systèmes d'aide parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, le culturel, donc enfin, l'art en général, la musique, le cinéma, etc., est un énorme vecteur d'attraction pour des gens du monde entier. Donc il y a des gens au Brésil qui vont voir des films français qui disent « Ah, c'est génial, je vais aller étudier en France ou je vais aller apprendre le français. » Et tout ça, bah, ça crée en fait indirectement des métiers, de l'industrie, etc.
Bon, on le voit, moi ça me fait penser à l'effet Casa de Papel.
Exactement, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça.
Tout le monde connaît la série, adore ce truc-là. Combien l'ont regardé en VO, et, dont moi notamment d'ailleurs, et, pour
voilà.
Entendre parler espagnol et tout. Non, clairement. Après en France, pour l'instant, on n'est pas encore.
Non, on essaye. On essaye.
C'est en train de venir là.
On essaye.
C'est pas mal. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait quitter
En fait, on n'a pas réussi à gagner d'argent, tout simplement. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, donc de 2012 à 2016. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'a jamais réussi à rentrer, à forcer un peu les portes du financement public, parce que ça reste des environnements qui sont relativement incestueux. Et on n'était pas dans le sérail, quoi, pour dire les choses simplement. Et on n'a pas été suffisamment bon pour convaincre les gens de nous financer, en fait, concrètement, c'est ça. Peut-être parce que nos scénarios étaient mauvais, peut-être parce qu'on n'était pas assez bons commerciaux, voilà, il peut y avoir plein de raisons, X ou Y.
Ouais.
On a fait un petit peu de publicité, ça nous a rapporté quelques centaines, quelques milliers d'euros sur plusieurs années, et puis au bout de 4 ans, j'ai dit, écoutez, moi je peux pas vivre comme ça, je suis barman depuis 2 ans, j'en ai marre.
Du coup, t'étais obligé de bosser à côté.
Absolument. Voilà. Et les moments les plus intenses, c'est quand je bossais en boîte de nuit et j'allais sur les plateaux de tournage de 9h à 15h. Je rentrais chez moi, je dormais 2-3 heures. À 17h, je m'habillais, je me mettais en tenue de serveur ou de barman. J'allais en boîte de nuit, je bossais de 19h à 6h du matin. Je rentrais chez moi, je dormais 1h, je retournais sur le plateau le lendemain.
Vache. T'as dû... ça devait être bien difficile quand même.
C'était assez sportif, ouais. Et tout ça parce qu'en fait... Faut bien comprendre que dans le cinéma, en fait, on vit sur du rêve et on vit sur du tu vas voir dans 1 an, 2 ans, ça va marcher. Et donc, en fait, comme c'est très subjectif, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'abord de financer son film et quand ça marche pas, on se dit, bah, on va le faire quand même, même avec très peu de financement, on va faire des crowdfunding, demander de l'argent à nos potes, à notre famille, etc. Et donc, on fait le film, donc c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de tournage, ensuite on part sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de montage. Et ensuite, une fois que c'est monté, terminé, etc., on a un produit fini qui est prêt à être montré. Et là, on se dit, bon, bah écoutez, comme on n'a pas réussi à rentrer dans le sérail par la voie du scénario, on va essayer de rentrer dans le sérail par la voie du film fini. Donc, on envoie le film aux chaînes de télé en espérant qu'elles nous l'achètent. Dans 99% des cas, ça n'arrive pas. Et ensuite, on se dit, bah, on va envoyer notre film à des festivals partout dans le monde. Et on envoie le film à des dizaines, des centaines de festivals. Et on essaye de rafler des prix. Et ensuite, on peut dire au scénario d'après, bon, bah regardez, ce réalisateur, il a gagné tel prix dans tel festival. Donc cette fois-ci, il mérite bien d'avoir son financement.
Ouais.
Et ça, c'est un process qui prend 2 ans, en moyenne. Entre les premières versions du scénario et les fins de festival, ça prend 2-3 ans.
Ça a l'air épuisant, rien que le fait d'en parler.
C'est une punition. C'est une punition, d'autant plus quand on a un job à côté. Et le pire, c'est que... En fait, moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai fait 4 ans, mais j'ai fait 2 fois 2 ans. Dans ma tête.
Ouais.
J'ai fait une première série de 3-4 courts-métrages et pendant 2 ans, ça a été une course, un chemin de croix, étape en étape, de se prendre toutes les portes dans la gueule, de continuer à avancer, de continuer à essayer. Et au bout de 2 ans, on se retrouvait avec un film un énorme trou dans son compte en banque et trois prix dans des festivals absolument inintéressants et dans lesquels personne ne va. Et de repartir à nouveau avec un nouveau scénario du même réalisateur et dire « Ah, cette fois-ci, ça va marcher, on va avoir les financements. » Et en fait, au bout de deux fois ça, franchement, il faut vraiment avoir une volonté de faire pour continuer, quoi. Moi, j'étais là, c'est pas possible, ça fait 4 ans, ça a pas marché, ça a pas marché, quoi.
Très dur, ouais, je comprends. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que, en fait, c'est un rêve permanent.
C'est ça.
Moi, je me dis, est-ce que c'est pas le chemin de croix de l'entrepreneuriat de façon générale ?
Non, ouais. Non, je suis pas d'accord. Parce que le chemin de croix de l'entrepreneuriat, c'est... Comment dire ?
Alors, c'est peut-être moins difficile que le cinéma, je pense. Enfin, ça dépend des secteurs.
C'est pas que c'est moins difficile, c'est que c'est moins subjectif.
Ouais.
Quand on fait un produit qui apporte réellement une valeur aux gens... la valeur que ce produit apporte est relativement objective. Si je fais un produit qui permet je sais pas quoi comme mon produit actuel d'accélérer et de sécuriser la saisie comptable et que je vais voir des experts comptables et que je leur dis bah grâce à mon produit tu vas faire de la saisie 3 fois plus vite et pour 3 fois moins cher et tu auras 3 fois moins d'erreurs, c'est une valeur objective que j'apporte. Tandis que quand on fait un film, c'est complètement subjectif.
Donc c'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre, la différence entre l'art et,
exactement.
Et la création de produits purs. Ouais, c'est vrai.
Exactement. Et il y a d'ailleurs une phrase dans le milieu du cinéma qui est « Le plus dur, c'est pas de faire son premier film, c'est de faire son deuxième film. » Parce que le premier film est tellement tout le temps un échec que le deuxième, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait un film et qui n'en ont pas fait deux.
Ouais.
Par contre, ceux qui ont fait deux, généralement, ils en font un troisième, un quatrième, etc.
Et toi, t'en as fait...
Ah, moi j'étais producteur donc j'étais.
Oui,
j'en ai fait une dizaine en moyenne.
Donc t'as produit une dizaine ?
Ouais, je sais, un peu moins de 10, je sais plus exactement combien quoi. Il y en a que j'en ai fait 100 en boîte de prod et d'autres avec des boîtes de prod quoi.
Ok. Et suite à ça, donc. T'as essayé de te former au code ?
C'est ça, exactement.
En faisant le wagon, du coup en même temps que moi.
Voilà.
On était ensemble dans ce batch.
Avril 2016.
À Paris, c'est ça. Moi, tu te souviens mieux de la date que moi.
Ouais, je m'en souviens très bien.
J'hésite souvent entre mai.
Je m'en souviens très bien parce que j'avais fait du bar littéralement 3 jours avant. J'avais ma dernière journée de barman. Et j'ai eu ce passage de l'un à l'autre. Et je me suis dit, mais ça y est, je suis rentré dans un monde enfin différent de ce que j'ai connu. Quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est un monde qui est, à mon sens, qui est très dur et qui a plein de difficultés. Et il y a plein de gens qui sont. Difficile dans ce milieu, mais en soi, c'est un monde qui est plus bienveillant pour deux raisons principales. La première raison, c'est que c'est un monde dans lequel les compétences comptent, contrairement à mon sens au cinéma où tout est tellement subjectif que les compétences sont floues et en fait elles comptent pas tant que ça. Et la deuxième raison, c'est que c'est un univers qui est beaucoup plus vaste que l'univers du cinéma, qui est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et donc quand on est dans un tout petit milieu où tout le monde se connaît et où en plus quelqu'un de très compétent va pas forcément faire une énorme différence par rapport à quelqu'un de pas compétent, on se retrouve inévitablement dans un système de cours. Et il n'y a pas ça dans le monde des startups. Le fait d'être dans un univers qui, entre guillemets, respecte l'argent fait que...
Est-ce que tu es sûr ?
De quoi ?
Alors là, je mets les pieds un peu dans le plat.
Vas-y.
Mais est-ce que t'es sûr qu'il n'y a pas ce système de cours ? Moi, des fois, je me pose la question, très honnêtement. Certaines levées de fonds qui marchent parce que un tel a fait telle école, donc forcément, ça veut dire qu'il va bien gérer sa boîte.
Ouais.
Un tel connaît tel réseau, et voilà.
Oui, mais ça, c'est pas grave, dans le sens où on s'en fiche, entre guillemets, que Bidule, qui a rien fait pour faire marcher sa boîte, lève je sais pas combien de millions d'euros auprès des VC, parce que inévitablement le marché finira par se corriger, parce que le mec il va pas passer de levée de fonds en levée de fonds sans faire un euro. Il y a forcément un moment donné où il faut qu'il soit efficace.
T'es très optimiste.
Oui, je suis optimiste. Non, mais bien sûr, mais
moi,
il y en a qui le font, mais c'est une vie perdue au final. C'est absolument une vie perdue parce que c'est des gens qui ne feront rien d'intéressant à part lever de l'argent.
Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est deux choses. C'est les salariés déjà dans ce genre d'entreprise, qui malheureusement, on va dire, travaillent un peu sans une vision claire, et on sait très bien qu'aujourd'hui, ne pas avoir de vision, ça peut tuer tes équipes. Et le fait aussi que, si tu veux, ça donne un modèle assez néfaste à d'autres entrepreneurs qui se lancent.
Oui, c'est vrai.
Et moi, d'ailleurs, enfin, petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, mais j'encourage toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à ne pas avoir ce modèle de je vais lancer un produit et je vais viser une levée de fonds. C'est pas comme ça que ça
Tout à
marche.
fait.
C'est déjà on vend. Déjà, on vend, on cherche des clients. Si ça commence à rentrer l'argent, on développe le produit, quoi. Et le but, c'est d'avant tout d'être rentable, rentable,
C'est
rentable.
ça. Et en fait, le piège, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu montes une boîte, les fonds d'investissement vont venir te voir. Et nous, on est tombé dans le panneau, en fait, il y a à peu près un an.
Donc, ouais, là, tu as lancé Chain Trust,
Voilà.
qui est donc, tu disais tout à l'heure.
Donc c'est un outil d'automatisation de tenue des comptes et actuellement de saisie comptable. Donc en gros, le problème qu'on résout, c'est, bah, tous ceux qui ont monté une boîte le savent, la première personne à qui tu parles, c'est un expert comptable. Et l'expert comptable, c'est celui qui va te saouler pour des trucs administratifs, vraiment, où tu as l'impression que ça n'a pas d'importance, mais en fait, ça en a. Et en plus, ceux qui ont travailler dans des boîtes qui ont un peu grossi, savent que les comptables dans les boîtes, c'est un peu comment dire, les balayeurs, entre guillemets, les hommes de ménage, ils sont un peu traités comme des moins que rien, parce que, en fait, ils doivent faire concorder les chiffres avec l'État, et donc ils ont, entre guillemets, l'obligation de nettoyer un peu tout ce qui se passe dans tous les départements. Et donc, en fait, ce qui leur prend du temps, c'est de tenir les comptes à jour. Tenir les comptes à jour, c'est très simple, c'est je lis une facture et puis je remplis dans un logiciel comptable les informations qui sont sur la facture. Et nous, on essaye d'automatiser ça pour leur permettre de faire des choses qualitatives. Voilà.
Ok. De toute façon, c'est un secteur qui a besoin d'être secoué, qui commence à l'être,
Il l'est, ouais, il est au coin.
mais qui n'est pas assez à mon goût. Donc, tu disais que du coup, tu avais des investisseurs qui t'avaient approché pour
Oui, c'est
investir dans la
ça.
boîte.
En fait, on a monté la boîte. Très rapidement, on a rejoint l'accélérateur de l'école polytechnique. Et au moment où on a rejoint l'accélérateur, les investisseurs sont venus nous voir en nous disant, nous, on investit sur l'équipe, on croit en l'équipe, etc., etc. Et donc, nous, on y a cru, évidemment.
Forcément, avec le truc polytechnique,
C'est ça.
ça claque pour eux, c'est intéressant,
Ça
quoi.
claque pour eux. Sauf qu'en fait, un investisseur n'investit pas, jamais. Déjà, c'est bien connu que 99% des projets sont refusés parce que de toute façon, l'investisseur ne pourrait pas investir dans tous les projets qui se présentent.
Il aurait vite plus
Mais
d'argent.
comment?
Il aurait vite plus d'argent.
Il aurait eu plus d'argent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'investisseur veut absolument, absolument limiter sa part de risque. Donc, il ne va. Il doit choisir parmi une énorme quantité de projets des projets qui semblent entre guillemets sans risque. Sans risque, ça ne veut pas dire qu'il va marcher à tous les coups. Ça veut dire si ça se casse la figure, on ne pourra pas m'accuser. C'est ça le sens du mot risque. Et donc en fait, ils veulent des arguments à donner à comment on appelle ça, les gens qui mettent de l'argent dans les fonds,
Ouais,
à leurs investisseurs à
leurs
eux.
investisseurs à eux, ouais.
Et en fait, ce qui veut dire qu'il y a certains critères qui vont être absolument disqualifiants, mais ils vont jamais le dire aux entrepreneurs parce qu'ils veulent voir tous les entrepreneurs. En fait, il y a deux craintes pour un investisseur. La première crainte, c'est j'ai investi sur un entrepreneur qui n'avait aucune qualification, aucun background, qui ne faisait pas un euro, et la boîte s'est cassée la figure. Et la deuxième crainte, c'est je suis passé à côté de cet entrepreneur qui ensuite est devenu une énorme boîte. Donc pour pallier à ça, première chose qu'ils font, ils contactent tous les entrepreneurs possibles et imaginables, et à tous les entrepreneurs, ils leur disent, nous on croit en l'équipe, donc venez nous rencontrer, venez passer une après-midi avec nous pour nous parler de votre projet. Ensuite, ils font asseoir l'entrepreneur dans une pièce et ils lui font expliquer l'intégralité du marché, de la concurrence, de leurs produits, etc., etc. Ils prennent des notes sur leur CRM et ça leur donne une vision marché. Donc en fait, les entrepreneurs sont des professeurs pour les investisseurs. Les entrepreneurs viennent voir les investisseurs pour leur apprendre comment leur marché fonctionne. Une fois qu'ils ont vu une trentaine d'entrepreneurs dans le même marché, ils commencent à avoir une vision sur le marché et ensuite ils appliquent des critères disqualifiants. Par exemple, Si tu fais pas, je sais pas, 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel ou de revenus récurrents mensuels, ils vont jamais mettre un euro sur ta boîte, sauf si tu as déjà fait une boîte avant et que la boîte a cartonné.
Ouais,
Et
sauf par
sauf,
éducation, quoi.
voilà, et sauf si tu as fait Polytechnique et que tu es sur un marché très 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 novateur et que tu as un point de vue très très intéressant et que tu as fait une étude de marché hyper poussée, là peut-être qu'ils vont vouloir investir sur toi. Et donc en fait nous on est tombé dans le panneau, on a vu tous les investisseurs de Paris, tous les VC, on a passé un mois à expliquer à tous les investisseurs de Paris comment le marché de la comptabilité se portait et quels étaient les acteurs sur le marché de la comptabilité, pourquoi certaines solutions fonctionnaient, pourquoi d'autres solutions ne fonctionnaient pas. Et tous les investisseurs nous ont dit merci et bon courage. Et donc on a perdu un mois comme ça.
Pardon.
Mais c'est pas, mais bon, on y est
Non, mais
allé.
expérience intéressante quand même, je
Expérience
pense.
intéressante. Mais on a perdu juste un mois. Donc il y a des gens qui perdent beaucoup plus de temps que ça. Et la raison pour laquelle on a perdu un mois, c'est qu'on s'est dit on va contacter tous les investisseurs d'un coup. On va tous les voir dans le courant de ce mois. Et puis on va voir ce qu'il en ressort, quoi.
Et encore, vous auriez pu perdre beaucoup plus de temps.
On aurait pu perdre beaucoup plus de temps si on l'avait fait sur le. Si on l'avait fait traîner, quoi. Ou si on avait décidé d'aller voir vraiment tous les investisseurs, quoi. Là, on a vu que ceux qui étaient à Paris et qui étaient un peu installés avec un nom un peu connu, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qui compte, c'est le pouvoir, comme ils disent dans Game of Thrones. Le pouvoir, c'est le pouvoir, et dans les startups, le pouvoir, c'est le cash que tu rentres. Point barre.
Puis ouais non mais ça puis ça rejoint un peu ce que je te disais, c'est que globalement faut arrêter de penser lever de fonds quoi. C'est exactement ça.
C'est ça.
C'est
D'autant plus que, en fait, en France, les investisseurs se positionnent sur des levées de fonds commerciales. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne se positionnent pas sur des levées de fonds techniques. Aux États-Unis, il y a des gens qui mettent 1 million d'euros dans une boîte parce qu'il y a deux très bons ingénieurs dedans et qu'ils ont une idée novatrice et que l'investisseur est un ancien ingénieur et qu'il se dit, bah, vous allez faire du recherche et développement pendant un an et demi sur cette idée. En France, les investisseurs sont généralement des diplômés d'école de commerce qui ne pensent qu'en termes marché, et ils n'ont pas forcément tort, c'est pas un jugement de valeur, mais ils ne comprennent pas la technique, et ça ne sert à rien de passer 3 heures à leur expliquer comment ton projet fonctionne techniquement, parce que de toute façon, ils ne vont rien comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur dises mon coût d'acquisition, c'est tant, ma lifetime value, c'est tant. La taille de marché, c'est tant, notre méthode d'acquisition, c'est ça, et on va faire exactement tant d'euros à la fin des 18 mois parce que on aura fait tel et tel.
Ils veulent que tu aies un business plan en béton.
Voilà.
Après, par rapport à, tu citais la méthode américaine et la méthode française, entre guillemets, pour moi, les deux méthodes ont forcément. Bon, de toute façon, toute méthode a son côté négatif et son côté positif, ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, mais l'avantage du système que tu décris, où c'est fixé uniquement sur les chiffres, c'est que du coup, tu te retrouves avec des gens qui arrivent, eux, à très bien manipuler les chiffres et à bullshiter dessus. Et qui du coup en fait techniquement derrière il n'y a rien du tout, où l'équipe n'est pas bonne et ne arrivera pas à faire monter le projet en compétence, et du coup derrière c'est de l'investissement qui a été fait à perte quoi. Parce
C'est
que tu as des
ça.
mecs qui sont des très bons commerciaux, qui du coup arrivent super bien à vendre leur projet en
Tout à fait.
termes financiers, mais derrière en termes techniques ils savent pas gérer l'humain, ils savent pas gérer la vision de produit, et derrière ça fait un crash et de l'argent. Donc en fait, je pense qu'il n'y a aucune bonne méthode. Moi, de toute
Non.
façon, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est un feeling que tu dois avoir avec l'équipe.
C'est ça. Et en fait, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est quelqu'un qui s'appelait George Box qui disait, tous les modèles sont faux, mais certains sont plus utiles que d'autres. Mais en fait, la réalité, c'est que de toute façon, enfin, quel que soit l'investisseur et quelle que soit la méthode utilisée, la réalité est tellement chaotique qu'au final, il y aura toujours, enfin, la part de chaos sera toujours plus importante que la qualité de l'investisseur. À part peut-être des très grands visionnaires investisseurs qui sauront exactement repérer, le génial entrepreneur. La réalité, c'est que c'est quand même beaucoup de hasard, quoi. C'est beaucoup de hasard.
En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle From Good to Great,
Ok.
qui est, je ne sais pas si tu le connais.
J'ai entendu parler.
Mais c'est un livre, enfin, un vieux livre, façon de parler. Je crois qu'il est sorti dans les années 90 ou un truc comme ça, je sais plus exactement quand. Enfin bref, c'est une étude qui a été menée sur pas mal de temps, en gros, de personnes qui ont vu ce qui faisait la différence entre une compagnie, on va dire, moyenne qui arrivait et des compagnies qui deviennent exceptionnelles. Mmh. Et en fait, oui, c'est quantifiable. Mais en fait, c'est quantifiable sur des... Enfin, c'est mesurable et c'est prévisible sur des termes, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, quoi. Par exemple, moi, un des trucs là où j'en suis actuellement dans le livre, c'est que le CEO, contrairement à ce qu'on croit, ça ne doit pas être un Steve Jobs. Alors, ça ne veut pas dire qu'un mec comme Steve Jobs n'y arrive pas, évidemment, il l'a fait. Mais ça doit plutôt être quelqu'un de humble, qui est capable de mettre les autres avant lui et qui surtout est capable de mettre au service de ses salariés. Tu vois, je suis pas sûr que les investisseurs aujourd'hui cherchent ça.
Ouais.
Alors qu'ils devraient, mais
ouais,
c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'ils se concentrent sur la partie financière et pas forcément sur le reste.
Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas vraiment ce qui fait un bon ou un mauvais CEO, puisque manifestement Steve Jobs était quand même un bon CEO au moins de son vivant. Je pense que c'est vraiment facile de juger d'un point de vue extérieur, mais probablement le problème de Steve Jobs, c'est qu'il était tout à fait surdoué et tout à fait exceptionnel, mais du coup, Apple dépendait de lui. Ouais. Dès qu'il partait, Apple se cassait la figure. Et maintenant qu'il est mort, Apple est en récession pour la première fois, ou en baisse de croissance pour la première fois de son histoire, et les produits qui sortent enragent les utilisateurs, alors que du temps de Steve Jobs, ça n'arrivait pas.
C'est clair.
Mais bon, après, c'est le cycle de la vie. Les boîtes montent, elles grossissent, elles meurent. Rien n'est censé exister éternellement, de toute façon.
Ouais, mais justement, c'est un peu cette différence qui, a priori, peut faire en sorte qu'une boîte, justement, dure sur le très long terme, mmh. se casse la gueule. Enfin, le livre est hyper intéressant, je le recommande vraiment à tout le monde, From Good to Great, où il donne des exemples, même de compagnies qui étaient au sommet et qui se sont fait en quelques années dépasser par d'autres compagnies, qui elles sont restées au sommet, parce que justement elles avaient un peu tous ces critères réunis. Et ouais, c'est hyper intéressant. Mm. Et du coup, moi, question que j'avais envie de te poser, c'est quoi c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eu à affronter depuis que tu as créé Chain Trust pour ouais. savoir si tu as envie d'en parler.
Oui, je peux en parler sans problème. De toute façon, c'est un secret pour personne. J'ai monté 3 boîtes et à chaque fois, j'ai fait la même erreur. Comme quoi, j'apprends pas vite. Et je me suis associé avec des gens qui m'ont dit « T'inquiète, j'ai mon carnet d'adresses, les clients, ça va aller tout seul. »
Ouais, ok.
Et en fait, à chaque fois, j'ai monté une première boîte dans le cinéma et mes associés qui étaient plutôt dans le milieu m'ont dit « T'inquiète, je connais machin, on va avoir les financements. » On n'a jamais eu les financements. J'ai monté ensuite une boîte de com. Mon associé à l'époque m'a dit « T'inquiète, j'ai un carnet d'adresses long comme le bras. On va trouver des contrats incroyables. Ça va être génial. » On a eu 2 contrats en un an et 2 contrats à 500 euros, hein, pas des contrats importants. Et quand on a monté Chain Trust, mon CEO et meilleur ami d'enfance, Michael, m'a dit « Je suis expert comptable, je suis auditeur, je connais ce milieu, je connais les gens, ça va être très simple de trouver des clients. » Et évidemment, ça a été très difficile, parce que les experts comptables, on s'en est rendu compte après, ça fait 10 ans qu'ils se font harceler par des éditeurs de logiciels et des solutions d'automatisation, et ça fait 10 ans qu'ils sont déçus parce que les solutions ne marchent pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a monté Chain Trust. Et donc ils sont très difficiles à convaincre, d'autant plus que pour eux la tenue des comptes, ça reste leur cœur actuellement. C'est pas ce qu'ils veulent être à l'avenir, mais actuellement la tenue des comptes reste le cœur de métier des experts comptables, et donc le cœur de leur chiffre d'affaires, et donc ils vont pas externaliser ça en un claquement de doigts. Donc il faut vraiment, on a un temps de closing qui est très long.
C'est un bon bouche à oreille, quoi, de toute façon.
Il faut du bouche à oreille, il faut du marketing, il faut parler avec eux, il faut faire un test, un deuxième test, un troisième test. Donc on est vraiment sur 6 à 8 mois de closing. Et évidemment, quand on a monté la boîte et qu'on pensait que ça allait marcher tout seul, ça a été la douche froide. Mais bon, heureusement, on a tenu et maintenant, ça fait un an qu'on est en place et on commence maintenant à avoir une bonne dizaine de clients et à commencer à être rentable. Donc, en fait, la difficulté quand on monte une boîte, c'est toujours, 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 toujours de vendre. Et quand on réussit à vendre, tout le reste est facile, entre guillemets, hein. Il y a plein de choses difficiles, mais le fait de réussir à vendre, à faire de l'argent, etc., ça résout tous les autres problèmes de manière à peu près simple. Et c'est pour ça, en fait, que tu disais tout à l'heure, les grands commerciaux font des grands entrepreneurs. Et en fait, c'est peut-être que ce n'est pas vrai quand on regarde les statistiques, mais en tout cas, les meilleurs commerciaux sont ceux qui sont le meilleur à lancer des boîtes, à monter des boîtes, à lever des fonds. Et c'est ça qui fait une boîte, en fait. Et quand on voit, en fait, d'un point de vue extérieur, les grands entrepreneurs qui ont extraordinairement réussi, comme Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc., on a cette vision d'eux que ce sont des gros nerds qui sont dans leur coin à coder des trucs dans leur cave, quoi. Et en fait, c'est faux. Ces gens étaient des commerciaux. Ils vendaient
Tu crois?
extraordinairement. Bien sûr. Bien sûr.
C'est moi justement, j'ai enfin, je pense que la vision de qu'on a est vraie. Je pense que c'est des enfin, mais il y a trois facteurs. Il y a la chance, qui est un gros facteur qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, le chaos, c'est la chance, c'est l'inverse du chaos, c'est est-ce que tu vas avoir la chance d'avoir le bon moment, ton produit, etc. Et l'autre facteur, ça va être comment tu vas vendre ton truc, comme tu l'as dit. Et troisième facteur, c'est est-ce que ton produit, tout simplement, est performant? Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas eu de la chance et un produit performant? Parce que, par exemple, tu prends l'exemple de Mark Zuckerberg. Pour moi, Mark Zuckerberg, c'est pas du tout un bon commercial. Au contraire, je pense qu'il je le trouve même très mauvais sur son truc. Par contre, il a une super idée. Sa première version de l'application, je sais pas si tu as vu le film ou tu as vu l'histoire, c'était un truc qui comparait les visages
Tout à
qu'il
fait,
avait
ouais.
lancé pour s'amuser. Il a vu qu'il y avait une idée là-dessus. Par contre, oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens que pour moi, il a su voir l'opportunité commerciale. Là-dessus, si tu considères que c'est un bon commercial là-dessus, oui.
Non, je pense qu'il a été très très bon à vendre Facebook. Si on se rappelle, moi je me souviens très bien en 2008, les campagnes de harcèlement incroyables de la part de Facebook sur les utilisateurs, où ils t'envoyaient un mail tous les 2 jours, tu disais je veux plus recevoir de mails, ils te renvoyaient quand même des mails, ils disaient oui, mais t'as pas vu ça, t'as oublié ça, etc. Le mec a été un génie, quoi. Ça a été le premier spammeur du monde, et je pense que c'est probablement à cause de lui que maintenant il y a toutes les règles anti-spam qui existent. C'est extraordinaire. Ce mec a été vraiment très fort à comprendre comment attraper les gens et les rattraper quand ils partent et les rattraper encore et encore et encore. Et c'est ça qui, pour moi, fait de lui un bon commercial, même si c'est pas le commercial tel qu'on s'imagine.
C'est des bonnes techniques de growth, de croissance,
C'est
au
ça.
final. C'est un peu, moi, ça me fait penser au truc de Hotmail qui disait à la fin de chaque mail envoyé par Hotmail, enfin via Hotmail, pardon. Mais en gros, cette histoire de spam, moi je m'en souviens, c'est parce qu'en gros, tu avais toujours des gens qui s'inscrivaient, et à chaque fois qu'une personne s'inscrivait, elle donnait accès
C'est
à tous
ça,
ses contacts,
voilà.
et ça balançait systématiquement un mail. Donc,
Mais ça, c'était une technique de vente pour moi.
ouais,
C'est une manière, de vendre le produit aux utilisateurs parce que voilà, le but c'était d'avoir le plus d'utilisateurs possible sur l'app, quoi.
moi je le vois plus comme. Comme une façon, si tu veux, d'avoir réussi à s'être rendu indispensable, en fait. Via la curiosité des. Je pense, franchement, Facebook, ils ont exploité le pire aspect de l'humanité, qui est la curiosité sans faille de vouloir toujours savoir ce que les autres sont en
La
train de
jalousie,
faire.
quoi, la jalousie.
Ouais, la jalousie,
Oui,
exactement. La jalousie, la
mais un bon
comparaison, tout
commercial,
ça.
c'est ça.
Ouais.
Une pub de bagnole, c'est de la jalousie.
C'est un bon marketeur, alors.
Peut-être, on peut voir ça comme ça. Enfin, pour moi, c'est un commercial dans le sens où il mettait en place des programmes qui allaient directement taper dans la boîte mail des gens en leur disant regarde ce que fait ton pote, regarde ce que fait ta pote, etc. etc. Et ça, c'est diabolique, mais c'est quand même du génie commercial, à mon sens. Et un bon commercial, même un VRP de Renault qui vend des Renault en banlieue, il va jouer sur les, entre guillemets, sur les péchés capitaux, sur l'instinct des gens. Il va leur dire, ah, t'es sûr que tu veux pas la voiture un peu upgradée, tu veux pas la plus-plus plutôt que la plus normale, quoi. Et c'est ça, être commercial, c'est ça. En fait, la raison pour laquelle on a cette vision négative des commerciaux, c'est pas injustifié. Les commerciaux jouent sur nos émotions. Et ils essayent de nous vendre quelque chose avec nos émotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les médias de masse, les affiches partout dans le métro, cette espèce, en fait, on a une mauvaise vision de cet univers parce qu'on a le cerveau fatigué de se faire harceler toute la journée.
Et on s'aperçoit que les gens sont de moins en moins sensibles, d'ailleurs.
Voilà.
Et les marketeurs savent plus, se renouveler en permanence pour essayer d'inventer des nouvelles choses pour nous intéresser. Mais c'est un peu le problème de ce que tu disais avec toi, avec Chain Trust, c'est que bah, quand les mecs sont harcelés, au bout d'un moment, ils n'écoutent plus.
C'est ça.
Et au final, quand toi, tu as un vrai bon produit, bah,
et ben, comment le vendre? C'est très dur de le vendre. C'est très dur de le vendre.
Très, très dur.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu. En fait, pour moi, le grand changement, ça a été évidemment l'Internet, comme tout le monde peut le dire. Et la différence, c'est qu'avant l'Internet, les gens attendaient des commerciaux qui leur apportent de l'information. Aujourd'hui, les gens vont chercher l'information sur Internet. Donc, le commercial qui vient pour t'indiquer quoi faire, quoi acheter, comment acheter, il sert plus à rien. Donc, il faut trouver une autre valeur quand on vend quelque chose. En fait, les gens se font tellement harceler que ça leur coûte paradoxalement énormément de temps et énormément de charge mentale pour interagir avec toi pendant 10 minutes. Donc, pour qu'ils interagissent avec toi pendant 10 minutes, il faut leur apporter une valeur sensiblement supérieure au coût en charge mentale et en temps qu'ils vont dépenser pour passer avec toi.
Ouais, Alors, c'est un très vaste sujet parce qu'on va pas partir 100% là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'on a des algorithmes aujourd'hui qui sont capables de te dire quand est-ce que ton client va avoir besoin de toi et quel est le meilleur moment pour aller à poquer son attention. Le tirailler pour qu'il regarde ton produit. Parce que je lisais, et je pense que j'ai fait partie de ces gens-là un peu, je lisais il n'y a pas longtemps où je voyais dans un reportage, je sais plus, qu'en gros, ouais, c'était dans un reportage de The Great Hack sur Netflix,
Okay.
justement sur l'affaire Cambridge Analytica, où le mec est en cours magistral à l'université, et il pose une question et il dit qui pense que nos portables nous écoutent, que nos applications nous écoutent pour nous vendre de la pub. Et t'as toute la salle qui lève la main.
Ouais, bien sûr.
Et il dit, bah, c'est très probable dans 99% des cas que personne ne vous écoute, mais qu'en fait les algorithmes soient devenus tellement bons à identifier votre comportement et connaître vos envies que ils vont vous proposer au moment où vous y pensez.
Tout
Le
à fait.
produit adéquat, quoi.
Tout à fait.
Bon, alors c'est vrai que, par exemple, toi, tu t'adresses à des professionnels, donc LinkedIn est, je pense, moins en avance là-dessus, mais en train de carrément rattraper son retard. Pour moi, c'est un des réseaux où il faut le plus bosser en 2019 et très probablement en 2020. Et d'ailleurs, tu le fais déjà un peu, parce que je vois souvent des posts venant de toi. D'ailleurs, tu organises un événement dans pas longtemps.
J'organise un événement, oui, absolument.
Tu veux nous en parler un peu plus?
Oui, alors c'est vraiment à destination des experts comptables. On va. En fait, le problème des experts comptables, c'est qu'ils sont très angoissés par les nouvelles technologies. Ils veulent s'y mettre, mais en même temps, c'est dur de s'y mettre. En plus, s'y mettre vraiment avec des guillemets, ça veut dire quoi s'y mettre? Ils veulent numériser leur cabinet, mais ça veut dire quoi numériser son cabinet? Et donc, du coup, nous, on va faire un événement pour leur montrer un peu toutes les nouvelles technologies qui existent, d'où elles viennent, comment elles marchent, qu'est-ce qui se passe derrière quand on ouvre le capot de la voiture. Et puis derrière, on va leur vendre notre sauce aussi, évidemment, quoi.
Ah, ça c'est clair, parce que quand je vois que moi mon comptable il a un logiciel pour déposer ses pièces, pour déposer les pièces, les scans et tout ça, des factures, etc. C'est moi qui lui ai demandé de passer en HTTPS parce que le site n'était pas sécurisé pour
Ouais,
envoyer les
c'est
pièces,
ça.
quoi.
Ouais.
Enfin, je lui ai dit, on est en 2019, c'est pas normal d'avoir un site comme ça, quoi.
Ouais.
Et le prestataire lui a fait payer un supplément pour sécuriser le site, quoi. J'étais absolument scandalisé.
Ouais.
Mais oui, il y a une vraie réticence. Ça, c'est le premier truc. Donc déjà, je pense que quand tu travailles tous les jours sur un truc, bah, si tu le vois pas, c'est vraiment que informatiquement, bah, tu sais pas du tout, t'es pas au fait des nouveautés qui se font. Donc déjà, voilà. Pas vu que son site était pas en HTTPS. Et deuxièmement, surtout que bientôt Google, ils vont arrêter de référencer et carrément. Enfin, moi, Firefox, quand j'allais sur le site, ils me bipaient partout en me disant wow, t'es sur un truc sans certificat, ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que tu veux y aller? T'es obligé de double-cliquer, tout. Enfin, c'est de faire deux étapes. Et derrière, bah, j'utilise une banque, une néobanque moderne, 100% en ligne. Pareil, j'ai créé un accès comptable, et puis pour brancher sur le logiciel qui va aller récupérer automatiquement mes écritures comptables, bah, c'était compliqué, quoi. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que je pense que la difficulté pour toi, et tu as l'air de vachement l'exprimer, c'est que tu vas avoir... T'as un devoir d'éducation en plus, quoi.
C'est ça, oui, enfin, on peut appeler ça comme on veut, ça éducation. Mais oui, mais en même temps, c'est très compliqué. En fait, le problème de la compta, c'est que tu peux pas l'automatiser comme tu automatiserais, je sais pas quoi, les envois de mails ou les secrétaires ou je ne sais quoi. C'est la comptabilité, c'est...
Pourquoi ? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi tu peux pas l'automatiser ?
Parce que
c'est un truc que j'entends souvent. J'ai l'impression que c'est juste des entrées et des sorties.
En principe, oui. Mais le problème, c'est que la comptabilité ne dépend pas que de ce que tu vois. Elle dépend d'un contexte autour de ce que tu vois. Mm-hmm. Donc, en fait, toi, tu vas déclarer des trucs à l'État. Et ce que tu vas déclarer, ça dépend de ce que tu as reçu comme facture, on va dire. Mm-hmm. Mais ça dépend aussi de toi, comment tu te positionnes vis-à-vis de ces factures. Donc, je te prends un exemple. Si j'achète un iPhone et qu'il me coûte 1000 euros, ou 1200 maintenant... Si je décide d'acheter un iPhone dans le but de le donner à l'un de mes employés pour l'utiliser, ça va aller dans un compte de charge. Si je décide d'acheter un iPhone pour le revendre sur mon site en ligne, ça va aller dans un compte de stock. Donc en fait, c'est la même facture, le même fournisseur, le même montant, tout pareil, mais ça, en fait, tu déclares pas du tout la même chose.
D'accord.
Et donc c'est ça qui est difficile à...
Et des cas comme ça, il y en a combien à peu près ?
Des milliers. Toute la comptabilité, c'est le royaume de l'exception. Mais c'est pour ça que ça n'a pas été automatisé aujourd'hui.
Ça veut dire que si demain le législateur simplifie un peu tout ça, potentiellement, ce serait plus simple automatiser. Mais même par rapport à ce que tu me dis, je me dis, t'as des IA comme DeepMind de Google et tout qui arrivent à battre un champion de Go dans un jeu. Qui est le jeu de Go, qui est l'un des jeux les plus compliqués qui existent sur Terre, mmh. avec des infinités de trucs, de possibilités. C'est littéralement des infinités de possibilités.
Tout à fait.
À chaque coup. Mmh. Donc, comment la comptabilité échappe à cette automatisation par une IA, quoi ?
Alors déjà, l'IA qui bat le mec au jeu de Go, elle a des milliers de processeurs qui tournent toute la journée, ouais. Et c'est une consommation électrique absolument ahurissante. Donc, tu vois, on va se calmer, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a fait un robot qui bat quelqu'un au jeu de Go que demain on va tout automatiser de manière magique. La deuxième problème avec ça, c'est que, comme je te disais, en fait, autant essayer d'inventer un robot qui lit dans les pensées, dans ce cas-là. Admettons que j'achète un ordinateur, un Mac, qui me coûte 2000 euros. Ce Mac, je vais devoir l'amortir. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un actif dans ma société, donc c'est une valeur mm-hmm. qui, d'année en année, se déprécie. Pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons fiscales qui font que derrière, tu vas dire « Oui, mais j'ai tant d'actifs, j'ai tant de passifs. » Parce que derrière, tu dois payer des impôts. Donc, il faut quand même que tu déclares de la bonne manière. Comment tu prends la décision du nombre d'années sur lesquelles tu vas amortir ton Mac ? Alors, évidemment, il y a des bonnes pratiques dans le secteur de la comptabilité. Il y a des bonnes pratiques dans ton business spécifique à toi. Le voisin, ton concurrent, il a fait exactement ça, donc tu vas faire exactement ça. Mais il y a peut-être aussi, toi, ta stratégie financière que tu as envie d'appliquer pour déclarer tes impôts de telle ou telle manière. Et ça, c'est pas une IA qui va lire dans tes pensées et te dire « Ah oui, toi, tu as envie de faire cette stratégie-là, il faut que tu le fasses de cette manière-là. »
Non, mais par exemple, au moment où je vais sur mon compte, alors j'embête Pierre, là. Volontairement, j'embête, mais c'est un sujet qui je trouve que... beaucoup d'entrepreneurs déjà ne maîtrisent pas, et c'est pour ça que je le trouve hyper intéressant, et je pense que toi, via ta société, vous avez beaucoup apporté là-dessus. Qu'est-ce qui empêche, moi, demain, par exemple, quand je suis dans ma néobanque, et notamment, il y a aujourd'hui, il y a Shine, par exemple, pour les autres entrepreneurs, qui est très efficace. Qu'est-ce qui m'empêche au moment où, où à la fin du mois, je regarde mon relevé de compte, je rajoute mes pièces justificatives. Dans certaines néobanques, je peux déjà le faire, associer automatiquement un PDF avec le truc. Je peux même rentrer le montant de TVA. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une question supplémentaire pour lui dire quel type d'achat c'est, quoi ?
Rien sur le papier. Sauf que la liste de questions supplémentaires sera tellement longue que ça te prendrait des semaines à remplir toutes les infos. Et en plus, non seulement elle serait extrêmement longue, mais en plus de ça, tu serais incapable de répondre à la moitié de ces questions. Même moi, qui suis cofondateur d'une boîte pour les comptables, franchement, il y a des questions, je suis incapable d'y répondre. Ouais. Seul un expert comptable peut y répondre. Mais tu as raison sur le fait qu'à long terme, il va falloir commencer à automatiser et harmoniser un peu tout ça. Mais on ne peut automatiser que ce qui a été d'abord atomisé. On automatise que des petits bouts par petits bouts. C'est comme ça que l'automatisation fonctionne. Donc au début, tu peux pas prendre un problème de manière générale et dire on va automatiser la compta en général, quoi.
Ouais.
Par contre, tu peux dire on va automatiser la sélection du compte de charge dans une facture qui n'est pas éclatée en plusieurs comptes de charge. Mais même là,
c'est... Refais-moi ça.
En fait, déjà, la comptabilité d'un auto-entrepreneur et la comptabilité d'une société, ça n'a vraiment rien à voir. Et les sociétés qui font la comptabilité des auto-entrepreneurs comme Shine ou des professions libérales comme Georges Tech, c'est ce qu'ils font est exceptionnel et c'est vraiment impressionnant. Par contre, ça ne s'applique pas, ça ne peut pas s'appliquer, en tout cas pas facilement, aux sociétés. Dans une société...
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se concentrent que sur les auto-entrepreneurs aujourd'hui.
Exactement, parce que c'est un très bon levier de croissance et qu'il y a vraiment du business à faire et ils ont raison de le faire. Et peut-être qu'un jour ils feront la comptabilité générale et peut-être qu'on va réussir avant eux à prendre ce marché. Mais
j'espère.
J'espère. En fait, t'es une société, admettons que j'achète, je vais chez SFR, j'achète un iPhone... J'achète un an d'abonnement à SFR et j'achète l'installation d'une ligne ou d'une intervention technique ou je sais pas quoi. Bon, j'ai une facture, j'ai trois éléments sur cette facture. En fait, ces trois éléments, c'est pas du tout la même chose et ça va pas dans le même compte de charge. Un compte de charge, c'est un compte où tu... comment dire ça ? C'est un compte où tu identifies le type de dépense que tu es en train de faire.
Ouais.
Et c'est hyper important. Parce que ça a des implications fiscales importantes. Tu ne vas pas déclarer la même chose et tu ne vas pas payer des impôts de la même manière sur telle ou telle personne. Il n'y a évidemment pas les mêmes taux de TVA. Et donc, ça dépend de plein de facteurs différents, notamment des facteurs qui ne sont pas présents sur la facture. Donc ça, avant de l'automatiser, bon courage.
Non, mais ouais, clairement.
Et même, on est tombé sur des cas à la marge qui sont vraiment, vraiment complexes. On est tombé sur des cas de factures négatives. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un restaurant avait acheté bouteilles de lait ou de jus d'orange, je ne sais plus, et il avait ramené les bouteilles. Et donc, ça faisait une consigne, et donc il rendait de l'argent pour la consigne, et donc il faisait une facture négative. Donc, avant d'automatiser un truc comme ça,
il y a
du boulot. Donc, en fait, ce qu'il faut, avant d'automatiser, pour pouvoir automatiser, parce que tout le monde a envie d'automatiser en réalité, même les experts comptables, ils n'en peuvent plus de traiter des cas comme ça.
Oui, et puis enfin, eux, c'est chiant, c'est chronophage de fou,
c'est ça.
Puis ça doit pas être intéressant pour eux, je
c'est
pense.
Pas très intéressant.
Voilà, donc, clairement. Eux, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de l'optimisation, des trucs comme
des trucs qualitatifs qui rapportent vraiment de l'argent. Quoi. Mais avant d'automatiser ça, il faut le découper en petits bouts. Je disais, il faut l'atomiser, il faut l'éclater en tout petits blocs. Et l'idéal, c'est d'arriver à des blocs quasiment binaires, oui, non, et ensuite on peut mettre en place un algorithme d'IA qui va décider à la place d'un humain. Oui,
de toute façon, faut. Alors, je t'embêtais volontairement là-dessus parce que justement, je trouve que c'est. Je trouve que vraiment, t'en parles très bien, c'est pas pour te.
Merci.
Dire au sens du poil, mais vraiment, non, mais c'est un sujet qui, moi, personnellement, ça me donne de l'urticaire, la comptabilité. Et je pense que c'est le cas pour énormément de gens.
Tout à fait.
Et je trouve ça toujours sympa de décomposer un peu ces trucs-là. Et c'est un peu ce que tu viens de faire, et c'est vraiment cool. Et ouais, de toute façon, c'est ce fameux cycle itératif dont on parle beaucoup en agilité, des petits incréments qu'on rajoute les uns derrière les autres et pour essayer d'amener les choses à un plus grand dessin. Et voilà. Du coup, c'est quoi pour la. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite pour un peu. Alors, tu nous as dit que tu allais faire un événement à destination des experts comptables pour un peu développer ton activité.
Oui, tout à fait.
Et après, donc, améliorer le produit petit à petit, comme tu viens de le dire.
On améliore le produit. On fait une levée de fonds là, maintenant, en amorçage. Et le but de cette levée de fonds, c'est d'avoir un produit qui soit vraiment, vraiment une machine de guerre, quoi. Un truc qui tourne vraiment tout seul et qui couvre la plupart des cas.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est 3. Okay. On a une stagiaire avec nous qui vient de nous rejoindre. Ouais. Donc 4. Et.
C'est toi qui code, il y en a d'autres.
Alors, il y a un CTO qui a fait. Bah, qui a fait Polytechnique, qui a fait un doctorat en astrophysique à Polytechnique, plus précisément, et qui est expert en intelligence artificielle.
Okay.
Que j'ai rencontré dans mon ancien job, dans l'ancienne boîte dans laquelle je bossais.
Chez
Austin Fly. C'était une conciergerie. C'est toujours une conciergerie Airbnb d'ailleurs. Ils viennent de lever 9 millions d'euros. Donc bravo à eux.
Bravo. Ouais.
Y a Mickaël, donc mon meilleur ami d'enfance, qui est auditeur et expert comptable et qui est cofondateur de. Enfin, qui est le CEO de la boîte. Et moi, je suis. Comment dire ça
CEO.
Non, je ne suis pas CTO, je ne suis pas directeur des opérations, je suis multitâche, on va dire. J'ai fait le MVP, j'ai codé pendant un an d'arrache-pied pour qu'on ait quelque chose qui tourne. Depuis quelques mois, je fais essentiellement des sales et du marketing. Mm-hmm. Je gère une partie de la levée et Dieu sait ce que je ferai à l'avenir. En fait, j'ai un profil très généraliste et... D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que j'ai toujours peur d'être complètement inemployable parce que j'ai fait tellement de trucs différents dans ma vie.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense que c'est une force.
C'est peut-être une force, je sais pas.
De toute façon, on en parlait avant que d'enregistrer, mais t'as ce virus de l'entrepreneuriat et je pense que... Il est pas prêt de te quitter, j'ai l'impression. et j'espère pas non plus pour toi. Mais ouais, moi, je pense que c'est une force aujourd'hui d'avoir, au contraire, plus d'une corde à son arc. Et de toute façon... on voit bien qu'avec l'évolution, on parlait de Modéus aussi tout à l'heure, le livre de Harari,
ouais.
On voit bien qu'avec l'évolution de la société et des emplois dans le futur, de toute façon, une personne qui est monotâche, à mon avis, elle se met en danger professionnellement.
Ouais.
Donc, je pense que c'est bien d'être multitâche et très compétent. Ça montre qu'on est capable aussi de s'adapter dans un marché qui va très très vite aujourd'hui.
Peut-être. Alors, Homo Deus, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé très intéressant. Par contre, je suis pas certain que les conclusions soient correctes et qu'elles vont se vérifier à l'avenir. On verra.
Je pense que clairement, de toute façon, personne ne...
Oui, prédire l'avenir, de toute façon.
C'est très compliqué, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il a une approche très intéressante sur tout un tas de sujets qui moi, me fait personnellement beaucoup réfléchir, du coup. Mais oui, c'est sûr que ouais, y a des trucs assez pessimistes même, mais bon, on verra comment ça se passe. Et je sais pas si nous on connaîtra certaines de ces choses d'ailleurs. Des fois l'humanité est incroyablement rapide et des fois incroyablement lente à faire certains changements. On voit que selon les prédictions de certains économistes dans les années 1930, aujourd'hui on devrait bosser moins de 10 heures par semaine. Donc on voit clairement c'est pas le cas.
C'est pas le cas, oui.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font au fur et à mesure que les choses avancent. On arrive bientôt à la fin. Si tu devais recommander un bouquin à lire, qu'est-ce que ce serait ? Un ou plusieurs, hein, d'ailleurs, ça peut être de non-fiction ou de fiction, peu importe.
Alors, bonne question. Moi, j'ai un auteur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et que je lis depuis de nombreuses années, depuis même l'époque où j'étais dans le cinéma, c'est Nicolas Nassim Taleb.
Ouais. Le Signe Noir, notamment.
Le Signe Noir, Le Hasard Sauvage, qui est vraiment très, très bon. Antifragile, qui est vraiment, vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup sa vision du monde et je suis assez aligné là-dessus. Je pense que le monde est plus chaotique qu'on ne pense. Et être intelligent, c'est bien, mais mieux vaut avoir, comme il l'appelle, la skin in the game, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et être, entre guillemets, subir ses propres erreurs
plutôt que d'être un peu sur une vision stratosphérique du monde où on a fait les grands diplômes et on regarde le monde d'en haut, quoi.
Ouais.
Ensuite, en ce moment, je suis en train de lire Hackers and Painters de Paul Graham. Et c'est très rafraîchissant.
D'accord, ça parle de quoi?
Alors, c'est plein d'articles, enfin plein d'articles, plein de chapitres très généralistes sur le monde, la tech, l'économie, la politique. Et il a une vision du monde qui est vraiment originale et qui vraiment, qui vraiment est très juste pour moi.
D'accord.
Voilà.
Hackers and Painters, Paul Graham.
Tout à
Ok,
fait.
bon, je mettrai les liens dans la description comme toujours. Et ok, une citation favorite.
Ouais, bon, c'est pareil, il y en a plein. Il y a une phrase de Peggy que j'aime beaucoup. Alors putain, je sais pas si c'est Peggy. C'est peut-être pas Peggy. À vérifier. Il faut dire ce que l'on voit, et surtout ce qui est le plus important, il faut voir ce que l'on voit. Et ça,
Intéressant, en
quand
tout
on
cas,
bosse
ça.
dans la tech, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. À quel point dans la tech, mais en fait dans plein de sujets, dans l'entrepreneuriat, on a souvent sous les yeux quelque chose, mais on est tellement programmé pour penser d'une certaine manière qu'on va comprendre l'inverse de ce qu'on voit, quoi. Et ça, ça arrive assez souvent.
Très intéressant, ok. Elle est notée, celle-là. Une petite dernière question pour toi, un peu plus perso. Si tu où est-ce que tu aimerais te voir dans 10 ans?
Où est-ce que j'aimerais me voir dans 10 ans?
Question genre un peu compliquée.
Ouais. Je pense que je continuerai à faire des boîtes. Si tout se passe bien, je ferai des boîtes et je serai riche. Et donc, j'aurai une vie probablement un peu de flâneur, slash entrepreneur. Si ça se passe pas bien, je retrouverai un job et je continuerai à monter des boîtes, sur le côté. Donc voilà, ça c'est pour la partie professionnelle. Pour la partie personnelle, je vais monter une famille, me marier, faire plein de beaux enfants et essayer de transmettre un peu mon héritage et d'éduquer des petits gosses qui, on l'espère, deviendront des grands hommes et des grandes femmes.
Écoute, je te le souhaite. Pierre, merci.
Merci.
C'était très intéressant. Puis j'espère que je pourrai te recevoir à nouveau plus tard dans ce podcast pour voir où en est Chain Trust, où tu en es toi. Et puis je te souhaite toutes ces bonnes choses
Avec grand
pour la
plaisir,
suite.
avec grand plaisir.
Merci.
Merci à toi.
Ciao.